France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Des mots à la mode, surutilisés mais souvent peu clairs. Notre série de cette semaine les repère et les décrypte. Ce matin, le mot de déconstruction. C'est un vrai sésame, déconstruction. Un sésame, pour résumer d'un mot une attitude critique qu'on embrasse sans plus de précision. On va déconstruire tout ça, vous allez voir. Mais un sésame aussi pour moquer, pour persifler, pour s'effrayer. Rendez-vous compte, ils veulent tout déconstruire. Dans les deux cas, déconstruction est un mot auquel on associe volontiers wokisme, comme on dit, pensée décoloniale, théorie du genre, ainsi tous rangés dans le même baluchon. Et pour les persifleurs, déconstruction semble ces dernières années être devenue l'acmé du danger dénoncé. Déconstruire l'homme blanc, déconstruire l'homme tout court, déconstruire les rapports entre les sexes, tout cela sonne comme une guerre contre la civilisation. Or, ce mot « déconstruction » renvoie à l'œuvre d'un philosophe français, Jacques Derrida, disparu en 2004. C'est chez lui un mot complexe qui évoque une attitude dans la réflexion, un rapport au langage et à ses strates souterraines, une ouverture à la polysémie et à l'ambivalence des mots et de la pensée. C'est donc un mot subtil, ainsi suspendu désormais au même croc de boucher que les combats militants qui ont sans nul doute leur misère comme leur splendeur, car aucun militantisme n'est au-dessus de toute critique, mais qui, à défaut d'une analyse digne de ce nom, sont assimilés à un pur désir de destruction. Déconstruction, destruction, on mélange tout. Et si on écoutait de vrais spécialistes de Derrida pour en finir avec ce baluchon fourre-tout ? Bonjour Isabelle Alfandari.
Bonjour.
Vous êtes professeure de littérature américaine à l'université Sorbonne Nouvelle, psychanalyste et philosophe. Votre parcours est marqué notamment par l'importance pour vous de la pensée de Jacques Derrida. Vous avez publié chez Hermann en 2020 et quelques, pardonnez-moi, je n'ai plus la date exacte, un ouvrage intitulé Derrida-Lacan, l'écriture entre psychanalyse et déconstruction. Et vous avez co-organisé avec Anne-Emmanuel Berger et Jacob Rogozinski le colloque qui a répondu un an plus tard au colloque très énervé de janvier 2022 à la Sorbonne intitulé « Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture », colloque qui avait été ouvert par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean-Michel Blanquer. Votre colloque « Réponse » en janvier 2023 s'était intitulé « Qui a peur de la déconstruction ?» et les actes de ce colloque sont édités au PUF. Bonjour Raphaël Zaguri-Orly.
Bonjour Géraldine.
Vous enseignez la philosophie à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes directeur de programme au Collège international de philosophie. Vous réfléchissez beaucoup avec la déconstruction derridienne ainsi qu'avec l'éthique d'Emmanuel Lévinas. Vous avez en particulier dirigé en 2012 chez Gallimard avec Joseph Cohen un numéro des temps modernes intitulé « Derrida, l'événement déconstruction ». Alors commençons par un rappel. La salve contre la déconstruction était nourrie, c'était manifeste, lors du colloque de janvier 2022 à la Sorbonne.
À quel moment de notre histoire nous trouvons-nous pour qu'il y ait un tel goût pour la déconstruction ? Pourquoi est-ce que ce mot de déconstruction a eu tant d'importance dans la vie intellectuelle des dernières décennies, et tout particulièrement des dernières années ? Pourquoi un tel appétit pour ce mot ? Qu'est-ce qu'il nous dit de nous-mêmes ? Qu'est-ce qu'il nous dit du moment historique où nous nous trouvons? Qu'est-ce qu'il nous dit de notre trajectoire historique? Ce qui m'importe aussi dans l'initiative que vous avez prise, ce n'est pas seulement de critiquer, ce n'est pas seulement d'être sur la défensive, mais c'est au contraire de construire face à la déconstruction. Que construire? Qu'avons-nous à proposer? Pourquoi y a-t-il une telle attractivité vis-à-vis de la jeunesse des pensées de la déconstruction? C'est parce que elles ont le mérite d'exister, si je puis dire. Elles ont le mérite de présenter quelque chose. Et elles ont la force de s'approprier des thématiques valables. Prenez l'écologie, il y a une vision woke de l'écologie, il y a une vision républicaine de l'écologie. Prenez le féminisme, qui est une cause fondamentale, il y a évidemment une vision woke et une vision républicaine. L'égalité homme-femme débouche sur une paix entre les hommes et les femmes, pas sur une guerre des sexes. Et ce n'est pas le seul sujet. La lutte contre la discrimination est une lutte essentielle. Mais cette lutte doit avoir la bonne grille de lecture. Je l'appelle républicaine parce qu'elle se fonde tout simplement sur l'égalité entre les êtres humains et les citoyens.
C'était le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean-Michel Blanquer, à l'ouverture de ce colloque de janvier 2022, très énervé contre la déconstruction. Et au même colloque, voici un extrait de l'intervention du philosophe Pierre-Henri Tavoyot.
La déconstruction commence au moment où les grands fondements principaux qui assureraient la cohérence de l'édifice intellectuel d'une époque, à savoir le monde de la tradition, une vision de la nature relativement cohérente ou une référence au divin et à la théologie, ces trois fondements sont apparus être ébranlés. Et la philosophie moderne débute au moment où l'évidence d'une référence au passé et d'une référence à la nature deviennent, ces trois références, incertaines. Ce premier âge de la déconstruction, c'est l'âge critique. On peut ajouter un deuxième âge de la déconstruction qui va radicaliser l'esprit critique en philosophant avec le marteau, comme dit Nietzsche, et ce deuxième âge commence avec Schopenhauer et Nietzsche, par où il s'agit de faire en sorte que les constructions humaines elles-mêmes soient susceptibles d'être déconstruites, critiquées, passées au crible de l'esprit critique. Vient une troisième époque de la déconstruction qu'on a appelée la pensée 68, de manière polémique, ils ouvrent aussi la voie vers une troisième époque, vers une troisième manière de déconstruire, où l'on pourrait dire que la déconstruction ne vise plus que la déconstruction, c'est-à-dire la déconstruction devient technique qui ne vise qu'elle-même, d'un processus sans fin, qui a pour fin le processus lui-même.
Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites là. Je vais laisser mes invités répondre. L'idée que la déconstruction, au bout du compte, dans sa version, je suppose, d'Héridienne, ne viserait plus qu'elle-même, loin d'un geste critique qui porte sur des choses méritant critique. Jean-Michel Blanquer dit que ce qui est déconstruit avait au moins le mérite de présenter quelque chose, qui semble suggérer que la déconstruction ne présente rien, elle, mais ne fait que détruire. Qu'est-ce que vous pensez de ces manières de parler de ce concept que vous connaissez tous les deux très bien, puisque vous êtes d'excellents connaisseurs de l'œuvre de Jacques Derrida ? Isabelle Alfandal.
Alors, c'est très agressif pour parler de la déconstruction. On peut peut-être juste dire qu'il y a quand même deux régimes de parole différents, parce que d'un côté, on a un ministre de l'Éducation nationale en exercice, qui parle alors de Jacques Derrida, mais qui parle aussi d'autres penseurs dits de la pensée française qu'il associe à la déconstruction. Et on pourrait d'ailleurs y revenir. C'est pas forcément le cas complètement que Michel Foucault se reconnaîtrait sous l'égide de la déconstruction, sans doute pas. Mais on a une parole, disons, d'un responsable politique qui est un ministre de l'Éducation nationale et qui prend le parti de s'opposer et non seulement de réfuter, mais de critiquer très violemment. En introduction à un colloque en Sorbonne, l'œuvre philosophique de philosophes français reconnus mondialement, traduits, enseignés. Donc il y a un régime de discours, disons, politique d'une pugnacité qu'on peut déjà interroger d'un côté et de l'autre, un philosophe qui de fait veut en découdre avec la déconstruction. Voilà. Donc ce que moi je veux juste commencer par dire, c'est oui. Que je suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est d'ailleurs ce qui nous a fait beaucoup réagir avec un certain nombre de collègues et la raison pour laquelle on a monté ce colloque de réponse avec l'idée que la déconstruction serait contre la République. Alors ça, ni même qu'elle serait contre la civilisation. Oui. Je crois que ce qui s'appelle la déconstruction derridienne, c'est d'ailleurs un mot, mais on y reviendra peut-être, que Derrida n'aimait pas particulièrement, dont il s'est saisi, qu'il a trouvé dans un dictionnaire français, particulièrement républicain, qui s'appelle le littré, un mot d'architecture qu'il reprend, et de grammaire qu'il reprend. Oui. Et puis, aussitôt, il l'a saisi, aussitôt, il se rend compte qu'il pose des tas de problèmes, ce mot. Donc, Derrida n'est pas, je ne sais pas comment dire, celui qui va défendre le terme de déconstruction à toute force. C'est vrai qu'il est lié à son œuvre, mais ce terme ne le représente pas tout entier. Après, peut-être que dans ces deux prises de parole, il faut entendre la violence avec laquelle on identifie la déconstruction avec un acte de destruction. Et je crois que ce qu'on peut vouloir dire ici, c'est que la déconstruction, c'est sans doute plusieurs choses dont on va parler, mais en aucun cas, c'est le souhait de détruire ni la culture, ni l'État, encore moins la République. Pas du tout. C'est une manière de revenir, d'interroger les fondements, de la culture, les fondements des textes philosophiques. Et d'ailleurs, comme Tavoyau le dit, avant Derrida, il y a eu des philosophes qui ne sont pas tout à fait négligeables dans l'histoire de la philosophie, comme Schopenhauer et Nietzsche, qui eux-mêmes, déjà, ont fait un peu trembler sur leur assise.
Ou Kant,
bien sûr, mais ils ne le nomment pas, un certain nombre de fondements de la tradition, de l'histoire de la tradition philosophique. Donc c'est un geste, en fait, qui a à la fois un caractère de nouveauté, mais pas d'absolue nouveauté. Et dire que c'est un geste anti-républicain ou woke, quoi qu'on entende par ce terme, il me semble que c'est profondément injuste et inexact. Voilà.
Raphaël Zaguri-Orly.
Alors déjà, je voudrais dire qu'il est quand même très surprenant de voir à quel point, encore aujourd'hui, dans certains milieux, et dans certains milieux universitaires, je dois dire, la pensée philosophique française, comme s'il y allait d'un bloc monolithique, et raccordé sans hésitation à ce qu'on appelle la « French theory », c'est-à-dire à une certaine réception américaine. On va peut-être en parler aussi. Et que comme « French theory », la philosophie française ne produirait qu'un relativisme généralisé, constituerait uniquement des postures idéologiques rigides contre... la vérité, le fondationalisme, les fondements de la civilisation,
le sujet souverain,
le sens, c'est-à-dire au profit, apparemment, nous dit Tavoyau, d'affirmations infondées prêchant les valeurs de la différence. Toujours la différence, ou exhortant je ne sais quel anti-humanisme. D'ailleurs, Isabelle Alfandari vient de le dire, de Foucault à Deleuze à Derrida, en passant par d'autres, par Lyotard, Bataille, Blanchot, je ne sais qui d'autre, ces auteurs constitueraient un espèce de corpus homogène et monolithique. Alors, pour commencer, je dirais que les temps sont à l'instrumentalisation. Et on ne se préoccupe pas de la réalité des concepts. Et je le dis, d'autant plus que je m'adresse aussi à des universitaires. Parce que les concepts sont employés avec l'unique objectif de remplir un agenda politique idéologique. Autrement dit, on profite du fait que les gens ne votent pas au texte pour abandonner toute rigueur intellectuelle et toute contextualisation historique. On compare des incomparables. On est dans une approximation lexicale permanente. On fait du tort à la pensée philosophique. Et alors... À quoi il faut ajouter, et je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, on associe Derrida à la déconstruction derridienne avec toutes les réserves qu'avait Derrida pour ce terme, et on va peut-être en parler aussi, à la destruction heideggerienne. Et là, je pense qu'il a beau avoir passé sa vie à marquer ses distances avec Heidegger, je considère, quant à moi, et je pourrais en parler, que c'est le philosophe probablement le plus critique de Heidegger, qui a rompu de la manière la plus radicale avec Heidegger, mais parce que la déconstruction est d'une certaine manière liée à la destruction heideggerienne, on en a fait un heideggerien, et donc on laisse entendre que politiquement il serait aussi douteux qu'Heidegger. C'est très très grave.
Alors, je voudrais, dans ce que vous avez dit, tout de suite éclairer un point qui concerne la French theory telle qu'elle est perçue aux États-Unis. Vous disiez, Raphaël Zaguri-Orly, qu'il y a une tendance dans la French theory à l'américaine à simplifier les choses, à mettre tout le monde... Et vous le disiez aussi, Isabelle Alfandari, par exemple, Michel Foucault et Derrida ont eu des vraies querelles, notamment sur un fameux texte de Descartes, où Foucault a dit qu'il mettait loin de lui la question de la folie, alors que Derrida dit « mais pas du tout, la folie est beaucoup moins loin de la raison que ce qu'a dit Foucault ». Ils se sont quand même engueulés beaucoup. Et donc, dans la French theory à l'américaine, tous ces gens-là, c'est le même monde. Mais par ailleurs, et c'est bien expliqué dans le livre de François Cusset, « French theory » paru à La Découverte en 2003, qui est un défenseur quand même de cette manière de réfléchir. Ce n'est ni Tavoyau ni Luc Ferry, vous voyez, pas du tout, au contraire même, François Cusset. Mais il reconnaît que les Américains ont une tendance tendance à faire des digests. L'histoire de la folie de Foucault a été éditée en un petit livre. Il y a aussi un Kristeva Reader. Il y a des boîtes à outils, des toolbox. On parle de son Derrida. Il paraît même qu'on emploie une expression, vous me le confirmerez, vous qui connaissez les universités américaines, Isabelle Fondary, d'un Derridoodle. On a sa petite boîte à outils. On crée des livres user-friendly, c'est-à-dire faciles d'usage, etc. Est-ce que vous pensez, Raphaël Zaguri-Orly, que même si elle est attaquée d'une manière monstrueuse en ce moment aux États-Unis, on a quand même le droit de dire que la French Theory n'a pas fait du bien aux auteurs dont elle parle?
Je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire. Et je pense aussi que... on en parlait ce matin avec Isabelle Alfandari. Derrida est un immense lecteur de la tradition philosophique. C'est-à-dire que le travail de la déconstruction, pour parler comme ça, se déploie comme lecture des textes de la tradition. Je pense que cette réception américaine fait l'économie de ce type de travail-là, de ce travail tout en nuances de la déconstruction. Il s'agit, alors, un mot quand même sur ce travail, et j'ajouterai quelque chose peut-être sur l'Amérique et sur son rapport à l'Amérique, qui est un rapport aussi de distance, de réserve, comme toujours avec Derrida. La lecture derridienne des textes de la tradition accompagne les auteurs.
Oui.
Jusqu'au plus intime. C'est-à-dire jusqu'au plus intime de leurs gestes philosophiques. Pouvant donner l'impression que Derrida ne fait que répéter ou adhérer sans réserve aux auteurs de la tradition. C'est-à-dire qu'il aurait un espèce de rapport de disciple à la philosophie, aux philosophes de la tradition. Nous avons beaucoup entendu, Isabelle et moi, que Derrida serait hegelien ou qu'il serait supposément heideggerien dans un texte comme De l'Esprit.
Mais
ou
qui dit ça,
qu'il serait lévinassien.
Les partisans de la French Theory qui voudraient un Derrida qui taperait plus fort sur la tradition. Est-ce que je vous comprends bien? C'est
oui,
ça que vous voulez dire?
C'est absolument.
D'accord.
Absolument. Sauf qu'il serait en rupture avec la tradition. Sauf que, juste un mot, il y va, dans le mouvement même de la déconstruction, de suivre au plus près et au plus loin ces auteurs. Et donc, il n'est jamais question pour Derrida de rejeter la tradition, ni de la détruire encore moins.
Non, il travaille avec elle, c'est ça.
Absolument.
Alors, à vous, Isabelle.
Moi, je voudrais juste dire un tout petit mot sur le rapport de Derrida à l'Amérique, même si c'est un gros sujet, mais... Juste deux, trois petites choses. D'abord, moi, je ne pense pas que la French Theory, ça existe. Je pense même que ça n'existe pas. J'ai écrit un jour un article là-dessus, parce que je pense que ça n'existe pas, en tout cas, comme l'a dit Raphaël à l'instant, comme tout homogène. Ça n'existe absolument pas. On a vraiment une scène très agonistique entre Foucault, Deleuze, Derrida,
oui.
Et puis, si on veut, Nancy, Lacoulabarche, les gens qui sont proches et qui sont pourtant dans un désaccord très fécond, parfois assez violent. Donc la French Theory, c'est un produit d'importation américaine, pour plein de raisons sur lesquelles on pourrait revenir.
Donc même en Amérique, vous diriez que ça ne marche pas de manière aussi unifiée que ce qu'on dit?
Non, alors ça a été aussi l'objet d'appropriations politiques et universitaires. Hein. Un certain nombre de collègues ont fait aussi leur carrière. Il faut bien voir que tout ça s'est pris aussi dans la vie institutionnelle de l'université américaine. C'est un produit d'importation qui est très réducteur et qui, à mon avis, est très faux. Alors, il y a quand même une raison pour laquelle la déconstruction, entre guillemets, ou l'œuvre de Jacques Derrida a beaucoup intéressé les Américains et qui est une raison que je trouve beaucoup plus intéressante que simplement ce produit d'importation,
oui,
labellisé. C'est qu'aux États-Unis, il y a une longue tradition protestante, il y a une longue tradition d'exégèse, quand même, textuelle. Mmh. Il y a un rapport au texte, à la radicalité, au fait d'aller radicus, ça veut dire la racine. D'aller à la racine, c'est comme ça que les protestants qui sont arrivés, les colons qui sont arrivés en Amérique, ont commencé à d'une certaine manière, à enseigner, hein, y compris la Bible. Et chez Derrida, il y a bien un rapport radical au texte. Et ça, cette exégèse, cette manière littérale de lire, de mettre en contexte, de mettre en perspective, cette manière, disons, cursive de lire le texte philosophique à la lettre, c'est une manière qui a beaucoup d'écho dans la tradition américaine. Je pense que c'est pour ça que ça les a tellement enflammés, d'une certaine manière, les Américains. Et à cet endroit-là, c'est intéressant, parce que Derrida est un lecteur, comme l'a dit Raphaël à l'instant, est un lecteur au fond, de la tradition philosophique.
Et sur le côté digest, où les rapports à Derrida et à d'autres sont parfois très simplistes, avec des bouquins, ils font ça les Américains, ils font des livres plus courts, ils font des livres d'extraits, oui. C'est pas faux ça,
ça a fonctionné pour la plupart des penseurs dits de la French Theory qui à mon sens n'existent pas. Oui, on a fait des readers, c'est-à-dire des textes dans lesquels on met ensemble un certain nombre de textes sans force, en les commentant un peu de manière légère. C'est pas très intéressant, mais ça a fait connaître la déconstruction.
Bon. Alors, la déconstruction, vous venez de le dire, Isabelle Alfandari, ça concerne notamment le rapport au texte. Une de mes questions sera de savoir si ça ne concerne que le rapport aux les textes, ou bien si on déconstruit d'autres choses que des textes. Y a-t-il d'ailleurs autre chose que des textes? Pour entrer dans ce débat assez épais, je voudrais qu'on entende évidemment Jacques Derrida lui-même. Vous allez entendre une intervention de Jacques Derrida au micro de Franz-Olivier Gisbert dans l'émission Culture et Dépendance sur France 3 en 2002. Suivi d'un texte de Derrida, il s'agit d'une lettre à un ami japonais qui a été publiée en français en 1985.
Moi, je n'ai pas le sentiment que ce que j'écris ou la façon dont j'écris relève de la catégorie du sulfureux. Mais il est vrai qu'il y a dans les questions qui me traversent, auxquelles j'essaie de faire droit, il y a des menaces, c'est vrai. Des menaces quant à un certain ordre institutionnel, une certaine tradition académique, certains usages dominants. Donc je crois que j'ai ce sentiment obscur d'être menacé qui motive cette résistance, ce rejet ou ce ressentiment.
Alors vous êtes le philosophe de la déconstruction, hein ? La déconstruction, c'est vous, c'est-à-dire là où Derrida passe, tout trépasse. Hein, vous ne respectez rien.
Je suis très respectueux, en fait, des questions ou des affirmations auxquelles je fais droit dans ce que j'écris. Donc je ne suis pas du tout irrespectueux. Je suis très respectueux de la tradition. Je suis très respectueux des auteurs dont je parle. Mais évidemment, ce respect me commande quelquefois, naturellement, d'interroger de façon un peu dérangeante des certitudes, des présuppositions.
Oui, par exemple, la religion, la nation, la démocratie, la justice.
Le mot de déconstruction n'a jamais pu signifier destruction.
Il s'agissait de défaire, décomposer, décédimenter des structures, toutes sortes de structures, linguistiques, logocentriques, photocentriques, socio-institutionnelles, politiques, culturelles et surtout et d'abord philosophiques. C'est pourquoi, surtout aux États-Unis, on a associé le motif de la déconstruction au post-structuralisme, mot ignoré en France, sauf quand il revient des États-Unis. Mais défaire, décomposer, désédimenter des structures, mouvement plus historique en un certain sens que le mouvement structuraliste qui se trouvait par là remis en question, ce n'était pas une opération négative. Plutôt que de détruire, il fallait aussi comprendre comment un ensemble s'était construit. Le reconstruire pour cela. Toutefois, l'apparence négative était et reste d'autant plus difficile à effacer qu'elle se donne à lire dans la grammaire du mot « dé ». Encore qu'elle puisse suggérer aussi une dérivation généalogique plutôt qu'une démolition. C'est pourquoi ce mot à lui seul du moins ne m'a jamais paru satisfaisant. Mais quel mot l'est-il ? Il doit être toujours cerné par un discours. Difficile à effacer ensuite parce que dans le travail de la déconstruction, j'ai dû, comme je le fais ici, multiplier les mises en garde. Écarter finalement tous les concepts philosophiques de la tradition tout en réaffirmant la nécessité de recourir à eux au moins sous rature.
On a donc dit précipitamment que c'était une sorte de théologie négative, ce qui n'était ni vrai ni faux, mais je laisse ici ce débat.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons du mot « déconstruction » ce matin, surutilisé, souvent obscur dans les usages que l'on entend ici ou là. Et nous revenons à la source, à Jacques Derrida, dont mes invités, Isabelle Alfandari et Raphaël Zaguri-Orly, me disent qu'en fait, il n'était pas si central dans l'œuvre de Derrida. Et ça, c'est déjà un point très intéressant. Alors, dans ce qu'on vient d'entendre, évidemment, on voit Derrida se défendre face à Franz-Olivier Gisbert. Et là, je vous dis franchement, je le trouve très bon. C'est-à-dire, bien sûr que non, il n'est pas irrespectueux. Bien sûr que non, il ne veut pas tout démolir. Il le dit très très bien. Par contre, lorsqu'il s'agit de définir positivement ce qu'est le geste de la déconstruction, comme dans le texte qu'on vient d'entendre, franchement, j'ai du mal à comprendre comment il peut assumer, au fond, ce qui est une non-définition. Je sens bien, je crois que vous ne me démentirez pas, qu'il se met dans cette position, mais je trouve ça problématique de refuser de définir un mot qui, malgré tout, est assez important dans son travail.
Oui, mais en même temps, ça n'est pas un concept, la déconstruction. Et peut-être qu'on a utilisé ce mot un peu vite. C'est un mouvement, la déconstruction. Et Derrida va dire, donc, il est partagé. À la fois, il s'est saisi, il a attrapé ce mot au vol, si j'ose dire, pour pouvoir décrire quelque chose qui a lieu dans ce qui l'intéresse, des textes, du rapport au texte, parce qu'il faudrait dire tout de suite que la déconstruction, en fait, ça n'est jamais une activité volontaire. On ne déconstruit rien en première personne. Je, tu, vous, nous ne déconstruisons rien au sens de la déconstruction. Non.
Mais quand on
la
lit,
déconstruction,
qu'est-ce qu'on fait,
alors quand on
comment
lit,
ça marche?
Quand on lit, d'une certaine manière, on assiste à un événement qui a lieu, dont Derrida dit qu'il a lieu dans les textes par eux-mêmes. Le texte, l'œuvre, elle est toujours déjà, la déconstruction est toujours à l'œuvre dans l'œuvre, dit Derrida.
Il y a de l'équivoque.
Oui, il y a de l'équivoque, il y a des lignes de fracture, il y a des contradictions qui sont présentes de manière masquée dans les textes de la tradition. Et que le geste de lecture de Derrida et de bien d'autres encore va mettre au jour. D'une certaine manière, déconstruire, ça n'est rien faire en première personne, c'est assister à un événement qui a lieu dans un texte.
C'est écouter, vous êtes psychanalyste, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de cette sorte, l'écoute psychanalytique étant supposée entendre des niveaux de discours différents dans une parole?
Sans doute, de toutes les façons, Derrida, il est aussi, on a parlé de la manière qu'il a d'être en rapport avec Heidegger, il y a un autre penseur avec lequel il entretient un rapport de familiarité, alors là, pour le coup, extrême, c'est Freud. Il n'y a pas Derrida sans la lecture de Freud et sans le grand texte sur la scène de l'écriture. Donc oui, il y a une manière, mais il est aussi critique de Freud. Hein. C'est très intéressant. Derrida, il n'est pas quelqu'un qui épouse un geste. Il est quelqu'un qui regarde comment quelque chose a lieu dans le texte philosophique qui permet de penser de manière complexe et critique ce qui se passe. Parce qu'en fait, il y a toute une... Comment dire? Il parle de généalogie, il y a des lignes de fracture, comme il dit, il y a des lignes de force à l'intérieur des concepts philosophiques, à l'intérieur des textes philosophiques, qui nous permettent de repenser, pas pour les détruire, mais pour en comprendre les tenants et les aboutissants, des concepts comme celui de justice, de souveraineté, de nature, de temps, d'état, et j'en passe. Donc le geste de la déconstruction, en fait, ça n'est pas un geste volontariste, c'est un certain régime de lecture.
C'est fou ce que vous dites, parce que c'est comme des départements de littérature qui volontairement analysent des textes en essayant de les déconstruire. Enfin, c'est difficile de dire que c'est involontaire, vous voyez ce
que
je veux dire ?
Eh bien, c'est involontaire, et d'ailleurs Derrida va dire, et certains littéraires en ont conscience, que l'un des lieux où la déconstruction se passe de manière presque paradigmatique, c'est le texte littéraire. Parce que le texte littéraire, il soutient pas un roman, il soutient pas une thèse, ni un concept philosophique. Et d'une certaine manière, cette déconstruction, c'est-à-dire cette désédimentation, cette décomposition interne, ces lignes de fracture extrêmement, parfois violentes et déconcertantes, elles sont aussi à l'œuvre dans la littérature. C'est aussi pour ça que la littérature intéresse Derrida.
Et il y a une dimension non volontaire dans l'écoute psychanalytique aussi, diriez-vous, vous qui l'a pratiquée. Et donc, je voudrais savoir si ça vous a aidé, Derrida, dans votre rapport au texte littéraire. Vous êtes prof de littérature américaine et dans votre pratique d'analyste.
Pratique d'analyste, je ne suis pas sûre que Derrida m'ait aidé. Mais parce que je crois que c'est... Mais par contre, dans ma lecture de Freud, oui, Derrida m'a beaucoup aidé à concevoir notamment les points métaphysiques dans la lecture de Freud. Oui, oui, Derrida m'a beaucoup aidé, et dans la lecture de la littérature, bien entendu.
Raphaël Zaguri-Orly.
Je voudrais dire deux choses concernant la dimension, appelons-la non volontaire de la déconstruction. Je commençais à dire tout à l'heure que la lecture derridienne cherche à accompagner les auteurs de la tradition, les philosophes de la tradition, jusqu'au plus intime. C'est-à-dire qu'elle les accompagne, cette lecture, elle les lit jusque dans leur épuisement. C'est un concept derridien, hein, il y tient beaucoup.
L'épuisement, vous voulez
dire. L'épuisement. C'est-à-dire que, à la différence d'une certaine tradition critique, c'est vrai, qu'il ne cherche pas à réfuter, il le dit tout le temps, l'écriture déconstructiste ne se saisit pas d'un objet pour le déconstruire, mais on suit le cheminement jusqu'à son autodéconstruction. C'est son mot. Et là, il y aurait un passage, par exemple, que je voudrais vous lire très, très rapidement des spectres de Marx sur l'épuisement. Il dit « Inutile donc de le préciser ici, encore moins d'y insister trop lourdement, il n'y a aucun goût pour le vide ou pour la destruction chez quiconque fait droit à cette nécessité d'évider toujours davantage et de déconstruire des réponses philosophiques qui consistent à totaliser, à combler. » C'est ça qu'il cherche.
Il réfute la prétention à la totalité en philosophie dans son rapport au concept.
Mais alors, bon philosophe, se doit de le faire.
Je suis tellement d'accord, mais pas l'enjeu pour moi de développer
Oui. Par contre, je voudrais aussi dire quelque chose par rapport à votre question sur la question de la définition.
Oui.
Qui est une question importante. Alors, c'est vrai qu'il refuse d'une certaine manière, enfin, il tourne autour de la difficulté de définir, mais il y a, ici et là, quelques quasi-définitions, comme le plus d'une langue, comme le faire avec l'impossible, comme le ce qui arrive, comme le ça se déconstruit. Il dit quelque chose, et il dit quelque chose de positif. Et donc, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que ce qui se joue dans la déconstruction, c'est-à-dire dans la complication sans fin du principe de contradiction, ce que Derrida va nommer aussi l'indécidabilité, hein, il dit que la déconstruction, c'est faire une certaine épreuve de l'indécidabilité.
À cause de l'ambivalence du texte.
Oui, bien sûr. Mais aussi à cause de la nécessité de, je donne une expression de Derrida, de rappeler à leur paradoxalité, rappeler à leur paradoxe les valeurs compliquées. Hein, c'est ça, rappeler à leur paradoxe des valeurs comme celles du propre et de la propriété. Rappeler à leur paradoxe les oppositions et les dichotomies de la métaphysique, de l'histoire, de la philosophie.
Donc, montrer le contradictoire dans les constructions philosophiques.
Voilà. Alors, je vais vous donner rapidement un exemple qui a été vraiment au centre de sa réflexion, entre autres dans ce texte extraordinaire qui s'intitule « Le monolinguisme de l'autre ». Il dit « On ne parle jamais qu'une seule langue. On ne parle jamais qu'une seule langue. » On ne parle jamais une seule langue. En fait, y a là une duplicité antinomique, qu'il cherche à faire travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à en sortir, comme une certaine tradition philosophique, de la duplicité antinomique. Il ne cherche pas à en sortir par la hiérarchie, ou par la dialectique, ou par la réconciliation, ou par la philosophie transcendantale, c'est vrai. Il installe la hantise au cœur de cette paradoxalité-là. Pourquoi ? Parce que c'est sur ce fond-là que doit se prendre la décision, et y compris la décision politique. La décision politique, la responsabilité. La responsabilité
qui n'est pas là quand on lit Proust, mais qui est peut-être là quand on lit un grand texte sur l'hospitalité ou sur la justice.
Bien sûr.
Et là, il y a de la décision politique.
Il va accompagner les textes de l'hospitalité inconditionnelle jusqu'à leur épuisement, et il va déployer et accompagner et lire les textes de la souveraineté jusqu'à leur épuisement, pour ensuite ne pas devoir choisir entre la souveraineté ou l'hospitalité, mais pour faire en sorte que la décision se prenne sur... sur ce fond-là.
Sur le fond paradoxal du fait qu'elle est normalement impossible, mais qu'il faut la prendre quand même, c'est ça ?
C'est ça. Enfin, pour faire écho à ce qui vient d'être dit, je crois que la question d'indécidabilité, ce terme qu'utilise Derrida, il faut tout de suite dire, comme l'a dit Raphaël à l'instant, que l'indécidabilité, c'est pas une forme de suspension du jugement prolongée. L'indécidabilité, parce qu'il y a quand même un petit point de méthode qu'il faut faire pour expliquer que Derrida, c'est pas ni un nihiliste, ni un fervent partisan du ni-ni. En fait, dans le geste qui consiste à, comment dire, à suivre les nervures contradictoires et les régimes de force contradictoires dans les textes de la tradition. Chez Kant, chez Platon, chez Saussure, chez Rousseau. Lire, relire tous ces textes et regarder, en suivant de très près les nervures des argumentations, comment en fait ces textes sont travaillés, traversés par des contradictions souvent violentes et très déconcertantes autour de sujets qui, dans l'histoire de la métaphysique, sont des sujets décisifs, si j'ose dire, la question du sujet, justement, de la subjectivité, de la souveraineté, du temps, etc. Et il y a donc un geste qui consiste à laisser en suspens, oui, de manière épocale, comme on a pu dire, en suspens la décision, de manière à, justement, autoriser ce mouvement de la contradiction. Mettre à nu, d'une certaine manière, les concepts, mettre à nu les ressources, les prémices contradictoires des concepts. Et, in fine, le but, ça n'est pas du tout d'esquiver la décision, notamment politique. C'est tout le contraire. C'est de nous renseigner sur les tenants et les aboutissants de ces concepts auxquels l'on tient. L'État, le sujet, le temps, hein, nous renseigner pour nous demander, d'une certaine manière, pour nous commander même de décider. Et il faut dire, parce qu'on a fait le reproche à Derrida de s'être occupé uniquement, finalement, de textes, sans s'occuper de la réalité politique, sans s'occuper du contemporain. On pourrait dire que c'est tout le contraire.
Oui, mais justement, les ennemis disent que c'est tout le contraire. Alors, et qu'aujourd'hui, la déconstruction, elle sert à déconstruire, justement, l'homme au sens disons, l'homme dans sa virilité trop dominatrice.
Ah, je croyais au sens dominatrice. Anthropologique du terme, parce que là, Foucault l'a
fait. Le masculin, on va dire, l'homme blanc, etc. On dit aussi, alors peut-être c'est une erreur, que la déconstruction, même dans les textes, a permis de faire droit aux États-Unis à ce qu'on appelle les subaltern studies, les subaltern cultures, alors, les cultures autres.
Il se passe beaucoup de choses à partir de la déconstruction, mais pour Derrida, ce que j'appelais le contemporain, c'est pas seulement la question, comme vous dites, de l'homme blanc. Pour Derrida, les dernières années de son enseignement, les 15 dernières années, c'est ce qu'il a appelé les questions de responsabilité.
Oui.
La responsabilité qui est une question centrale pour Derrida, hein, répondre à et répondre de. Répondre devant et répondre d'eux, c'est une question centrale. Et cette question-là, elle couvre des problématiques comme l'hospitalité, comme ça a été dit, la souveraineté, la peine de mort, la démocratie à venir. On ne peut pas dire...
Des sujets qui ne sont pas au centre de ce que on appelle, et il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce mot et son usage, qu'on appelle aujourd'hui l'attitude woke ou wokiste. L'assimilation de la déconstruction au geste militant woke ou wokiste est-elle justifiée ou est-ce une aberration pour vous ?
Je pense que c'est une extrapolation. Je ne suis pas sûre que Derrida soit complètement woke. Et en même temps, tout dépend ce qu'on entend par wokisme. Si c'est un mot de la haine... Alors, je ne sais pas très bien quoi vous dire, mais si wokisme, ça renvoie à ce que dans les années 30, on a appelé aux États-Unis une attitude woke, c'est-à-dire vigilante par
être
rapport
éveillé.
À la question, exactement, être éveillé et se réveiller par rapport à la question du racisme, et vu ce qui est en train de se passer aux États-Unis, d'une certaine manière, il y a peut-être le besoin d'un certain réveil.
Oui,
Derrida, c'est une pensée qui permet une forme de vigilance, c'est sûr. Un certain réveil dans la relecture des textes de la tradition, pas du tout pour les détruire, encore une fois, mais pour pouvoir affermir sa position, pour décider en connaissance de cause.
Je vous en prie,
allez-y. Je voudrais juste ajouter
Raphaël
quelque chose.
Zaguri-Orly.
Qu'est-ce qu'une pensée philosophique qui ne commencerait pas par, d'une certaine manière, déranger, brouiller les frontières des oppositions, que ce soit homme-femme, homme-animal. où on peut multiplier à l'infini toutes ces oppositions. Qu'est-ce qu'une pensée philosophique qui ne commence pas par désorganiser la pureté d'un certain rapport tel qu'il est pensé dans l'histoire de la philosophie et dans l'histoire de l'Occident, pour parler comme ça, même si lui ne parlait jamais en ces termes-là, l'Occident, l'Orient, vous savez. Par ailleurs, c'est ça aussi qui lui permet de se réserver toutes les questions imaginables quant à l'histoire des rapports des dichotomies de la philosophie. Après, je voudrais aussi ajouter quelque chose concernant ce que vous appelez, pas vous, mais ce qu'on appelle le wokisme. La logique du travail de Derrida ne peut se schématiser simplement en une opposition à l'identité, par exemple, ou à la souveraineté, ou au fondement, comme disait Tavoyot, au fondement de la philosophie occidentale. Pourquoi ? Parce que la possibilité ou le droit de questionner aussi quelque chose de l'anti-identité, du refus de l'identité, voire de la différence, lui est nécessaire, sinon vital. La substantialisation de la différence, il n'y a personne d'aussi critique de ce qu'on appelle la substantialisation de la différence.
J'essaie de traduire peut-être dans une langue plus profane. Il y a dans les mouvements qui refusent les identités figées, hommes, femmes, etc., un risque aussi de resécréter de l'identité.
Il le dit tout le temps.
Et donc vous pensez même que sur ce point, Derrida pratiquerait la critique des critiques actuelles de l'identité comme embrassant et faisant habiter en elle encore des désirs d'identité.
Si on avait le temps, je vous aurais montré des centaines de passages où il est plus que critique, justement, plus que critique, parce que la critique ne suffit pas, parce que la critique est basée sur des fondements qui ne suffisent pas. C'est pour ça qu'il est hyper critique, c'est son concept. Hein. Donc, des passages hyper critiques du refus identitaire de l'identité, donc de la du différentialisme identitaire ou de l'identité différentialiste.
Parce que la différence, c'est un mouvement. C'est un mouvement, la différence. Ça n'est pas
il écrit avec un A.
C'est pour ça qu'il écrit avec A.
Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi ?
Pour tout un tas de raisons, pour d'une certaine manière, parce que ce A, il est à la fois, c'est pris dans la critique du phonologisme, c'est à la fois lisible et pas audible, ce A. On ne le voit que qu'en lisant. Il est là et il fait différence, littéralement. Il fait un différement, il espace quelque chose. Mais au-delà de ce A, de la différence, il faut comprendre que la différence, quel que soit son orthographe, quand Derrida s'en saisit, c'est un mouvement. Et c'est pas du tout une stase ou une essence. Donc il y a aucune essentialisation, comme l'a dit Raphaël à l'instant, il y a aucune ontologisation de la différence. Ce serait un contresens complet. La différence, on la maîtrise pas. On peut pas la porter en bandoulière, on peut pas s'en réclamer. Elle a lieu, la différence.
Alors,
je vous en prie.
Juste un dernier mot, parce qu'on touche à des questions politiques. Alors, il va aussi, dans certains cas, c'est vrai, et je pense qu'il a tout à fait raison de le faire, pour parler ainsi, défendre certains refus minoritaires et identitaires aussi, à leur façon, de l'identité dominante. C'est évident.
Donnez des exemples. Donc, Derrida
va,
en défend.
Il va défendre de ce qu'on appelle les colonisés certains besoins identitaires de minorités. Mmh. Évidemment, il peut... Mais ça ne l'empêchera pas déployer justement un autre concept de souveraineté. C'est ça qui va le pousser à déployer un autre concept de souveraineté.
Souveraineté du sujet, vous parlez là ?
Souveraineté du sujet, souveraineté politique, souveraineté liée à un certain concept d'identité, à un certain concept d'identité nationale. Donc, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que... voilà. Bon.
Alors... Oui.
Non, mais allez-y.
Alors voilà ce que je vous propose. Moi, j'ai un petit problème avec Derrida. Je vous le dis franchement, tout ce que vous dites m'intéresse beaucoup. Mais parfois, j'ai l'impression que c'est beaucoup de mots compliqués pour dire des choses qui ont été entreprises ailleurs, avant lui, et parfois assez simplement. Et je pense en particulier au travail de Roland Barthes dans Mythologie en 1957, qui emploie exactement certains des mots que vous avez vous-même employés en disant qu'il y a des mythes dans la société qui sont des construits. Le mythe de la bagnole, le mythe du steak frites qui serait source de vitalité, le mythe du mariage bourgeois, etc. Et il veut défaire, alors lui il dit défaire, pas déconstruire les mythes, démythologiser. Et il dit que le problème du mythe, c'est qu'il a tendance à purifier, exactement un mot que vous avez employé, Raphaël Zaguri-Orly, à propos de Derrida. Il veut purifier les choses, les innocenter, les fonder en nature et en éternité, comme si les mythes étaient des faits constatés, alors qu'en fait ce sont des construits historiques. Je cite encore, il donne le mythe une clarté qui est celle du constat, ce qui est mensonger, dit Barthes. Et encore ce très beau passage, en passant de l'histoire à la nature, le mythe abolit la complexité des actes humains, leur donne la simplicité des essences, il supprime toute dialectique, toute remontée au-delà du visible immédiat, il organise un monde sans contradiction parce que sans profondeur, un monde étalé dans l'évidence, il fonde une clarté heureuse, les choses ont l'air de signifier toutes seules. Et Barthes critique cela et engage à défaire les mythes. Mais n'est-ce pas exactement ce que veut faire Derrida dans la déconstruction avec un vocabulaire tellement plus compliqué que celui de Roland Barthes, Isabelle Alphand?
Alors, à la fois oui et non. Oui, parce que bien sûr que là, dans cette logique de défaire, de défaisance, de délinquance des signes, il y a quelque chose qui est bien sûr qui participe du geste de la déconstruction au sens où Derrida l'entend, qui est un geste très ancien. Mais là, les mythes dont parle Barthes, il en parle, il s'en saisit en tant que sémiologue. Ce sont des signes. Le steak frites, la baguette de pain.
Mais aussi certains trucs du réalisme en littérature. Il parle des textes aussi. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est un travail sémiologique. C'est une déconstitution sémiologique, une désédimentation sémiologique d'un système de signes. Ce que Derrida fait, d'une certaine manière, donc peut-être qu'on peut faire un parallèle dans une certaine mesure, mais c'est de s'adresser à la tradition philosophique. Peut-être, on pourrait dire qu'il y a comme une manière de relecture des grands mythes, disons, métaphysiques. Oui, il y a sûrement ça dans le travail de Derrida, ouais. Mais c'est d'une autre complexité que mythologie. Parce que mythologie, c'est génial, mais c'est un coup unique.
Mais non, il y a Racine.
Non, mais bien sûr, mais moi, je ne dirais jamais rien contre. Je ne dirais jamais rien contre Roland Barthes. Mais y compris la lecture de Racine, c'est pas simplement pour démythifier Racine, c'est pour faire entendre la maladie du costume de théâtre chez Racine. C'est pour faire entendre une polysémie dans le texte racinien et dans la manière dont la voix est portée dans le texte racinien. Donc, c'est pas simplement...
C'est pas déridien, ça ?
Oui, sans doute. Enfin, la question de la voix, c'est une question déridienne. Mais si vous voulez, il y a quand même une singularité du geste déridien qui est de se saisir de ce logos mutos de la tradition philosophique et de le passer au peigne fin. Ça, ce geste-là, c'est un geste très singulier et j'entends que c'est parfois, ça a l'air un peu compliqué, cela dit, est-ce que les trois H dont parle beaucoup Derrida, Hegel ou Searle et Heidegger, ne déploient pas des machineries philosophiques et grammaticales très complexes aussi pour rendre compte de l'événement du sujet, pour rendre compte de la question de l'être, pour rendre compte de la question du négatif? On pourrait faire le même reproche à Hegel ou Searle et Heidegger en leur demandant de se rendre plus clair. Il me semble qu'il y a donc entre Barthes sans doute et Derrida, et il y a d'ailleurs des liens autour de tel quel, il y a bien eu des liens historiques, mais ça n'est pas exactement le même geste et ça n'est pas exactement au même corpus que s'affronte le geste derridien, qui est un corpus qui est l'ensemble de la tradition philosophique dite métaphysique.
Raphaël Zaguri-Orly, sur ma perplexité, si j'ose dire, je trouve que Barthes dit les choses dans une langue magnifique, très claire. J'ai parfois l'impression qu'il fait du Derrida avant Derrida et en des mots plus simples. Qu'est-ce que vous m'objecteriez ?
C'est une question. Moi, je répondrai d'abord comme Isabelle en vous disant que la tradition philosophique est est très hermétique. La tradition philosophique est difficile. Les textes de la philosophie sont difficiles. Et Derrida s'installe dans cette tradition avec ce travail-là du concept et de la patience du concept. Donc, je ne sais pas, sur la démythologisation, est-ce que la déconstruction est une forme de démythologisation ? Oui, sachant aussi que les mythes, il y en a, il y en aura toujours. Et donc, je pense que Derrida ne se situerait pas dans un geste simple démythologisation. Il accompagnerait justement, pour employer encore ce mot qui lui est cher, la mythologisation jusqu'à dans ses plus grands excès, pour dévoiler à la fois ses limites et ses potentiels. Et donc, vous savez, Derrida n'est contre rien. Il n'est pas contre le mythe, mais il n'est pas non plus favorable au mythe. Il essaye de travailler avec le mythe, au-delà du mythe. C'est-à-dire qu'il va essayer de déplacer le mythologique au-delà de lui-même et au-delà de ce qu'on a dit la tradition.
C'est aussi un peu ce que Barthes appelait le contre-mythique, mais je ne vais pas insister. Okay. Je voudrais quand même vous demander, finir, pourquoi vous dites que Derrida, au fond, avait des réserves à un certain moment à l'égard du mot déconstruction ?
Ben justement, pour tout ce qu'on vient d'en dire pendant 45 minutes, c'est-à-dire que c'est un mot qui déclenche beaucoup de résistance. Il le dit d'ailleurs quand il répond à Gisbert. C'est un mot qui déclenche beaucoup de résistance et je pense qu'il entend la résistance d'Derrida, y compris au sens freudien du terme. C'est-à-dire que c'est un peu trop passionnel, ce mot. Ça s'embrase un peu trop vite autour de ce mot et ça ne laisse pas la possibilité un peu plus dépassionnée, disons, du travail patient, justement, du texte.
Moi, je dirais que s'il avait le choix, il n'aurait pas choisi ce terme pour décrire son geste. Moi, je pense que, par exemple, parmi les nombreux termes qu'il invente ou qu'il retravaille, il y a celui de aporie et d'aporétisation. Pour moi, aporie, au pluriel, c'est un des plus grands textes de Derrida. Et c'est un petit peu le texte, alors évidemment, il n'aurait pas du tout aimé ce mot, mais c'est le texte programmatique. Pourquoi ? Parce que, en deux mots, notre scène publique est particulièrement clivée. Nos scènes philosophiques le sont aussi d'une certaine manière. Les discours, on s'installe petit à petit dans des antagonismes insurmontables et donc dans des logiques européens, anti-européens, souverainistes ou hospitalités. Et je pense que ce que cherche à penser Derrida, c'est penser avec les deux, trois termes à la fois et en même temps, simultanément, pour justement produire une autre pensée politique à partir de ce travail-là de la contradiction. Yesterday's past.
I'm Set Free, chanson des Velvet Underground de 1969. Merci beaucoup Isabelle Alfandari et Raphaël Zaguri-Orly pour vos échanges de ce matin sur la notion d'Héridienne de déconstruction. Les références de vos travaux sont sur notre site. À présent, je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Il s'intéresse cette semaine au climat et aux problèmes de responsabilité qu'il soulève. Voici le pourquoi du comment.
Comment le climat peut-il changer ? On désigne normalement par la notion de climat quelque chose qui ne dépend pas de nous, quelque chose qui est un environnement global et qui même ce qu'il y a de global dans l'environnement. Le climat, c'est l'ensemble des facteurs externes à un sujet vivant qui détermine son équilibre dans son milieu. Le climat ne dépend donc pas du sujet vivant lui-même. Au contraire, c'est plutôt le climat qui détermine le vivant qui habite quelque part dans des facteurs, dans des conditions qui sont partie prenante de l'évolution des espèces. Par exemple, les climats chauds, les climats froids ont produit telles ou telles espèces de vivants qui s'adaptent, pourrait-on dire, au climat. Et il y a même une théorie anthropologique des climats. Montesquieu, dans l'Esprit des lois, en est un bon exemple. Il pense que les climats sont une partie de l'explication des sociétés humaines dans la diversité de leurs mœurs et de leurs lois. C'est d'ailleurs un vrai problème d'interprétation de l'Esprit des lois de Montesquieu, de savoir s'il n'a pas cédé à une sorte de déterminisme naturaliste, de déterminisme climatique qui expliquerait par exemple les lois et les mœurs des Anglais par la variation de leur climat. Dans le chapitre sur le climat, il a des passages assez drôles sur le fait que le courage des Anglais consiste aussi à s'adapter aux variations climatiques, au brouillard, à la pluie, finalement donnant la grande vertu de leur caractère démocratique. Y a-t-il un lien entre la météo pluvieuse des îles britanniques et la démocratie traditionnelle de ces régions ? C'est en tout cas ce que Montesquieu semble nous dire. De cette façon, le climat désigne toujours non seulement quelque chose d'extérieur, mais de global et de déterminant qui nous détermine. Alors aujourd'hui, quand on parle du changement climatique, n'y a-t-il pas quelque chose de contradictoire, puisque nous entendons par changement climatique non pas des variations externes soumises à des lois que l'on ferait simplement un travail scientifique pour connaître, ce qui est déjà absolument fondamental, mais plutôt un changement climatique produit par les humains. Comment le climat peut-il changer sous l'influence des humains qui semblent plutôt ses effets, ses victimes, même si c'est contestable, que ses acteurs ou ses auteurs? Et pourtant, oui, il y a aujourd'hui une nécessité de penser le changement climatique produit par les humains, et cela certainement de deux façons tout à fait différentes. La première, c'est la causalité scientifique elle-même. Oui, les scientifiques nous montrent des facteurs précis, déterminés, isolables, traitables, qui agissent sur ces déterminants globaux que sont les climats pour tous les vivants. Oui, la production de carbone, de gaz à effet de serre a un effet causal déterminé par les humains sur ces changements globaux. Et donc oui, le climat peut changer à cause de facteurs déterminés sur lesquels il faut agir. Et puis il y a une autre notion de climat, cet ensemble de phénomènes externes a des effets sur nos subjectivités. Comment agissons-nous pour changer un climat social, pour changer un climat politique ? Ce n'est pas de la même façon. Nous n'agissons pas sur un facteur seulement déterminé, mais c'est une prise de conscience globale. Oui, la subjectivité est déterminée par des climats, mais elle change les climats et il faut un climat politique juste pour que les choses changent de manière juste dans le monde.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Noé Chaban. Elle a été préparée en particulier par Armance Bourquin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Chaïma Giboire, Carla Michel, Anna Felpin et Nassim El-Kabli. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité!